le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, le rouge reste d'actualité pour le budget 2025 de l'État jurassien. Il prévoit un déficit de 5,3 millions de francs, un résultat obtenu grâce à des mesures d'économie qui dépassent les 50 millions. La ministre des Finances, Rosalie Berestis, est l'invitée de ce journal. Haute-Saône peut compter sur 24 nouveaux appartements protégés. Les logements du complexe La Prairie ont été inaugurés ce matin à Basse-Cour, un projet qui s'intègre dans le plan de législature de la commune. Un tiers de la population suisse souffre de troubles du sommeil. Le constat ressort de la dernière étude de l'Office fédéral de la statistique. En 25 ans, la part des personnes touchées a augmenté de 5%. La bise va se lever cet après-midi. Elle amènera quelques averses sur la région et de la fraîcheur. Le mercure ne dépassera pas 13 degrés en plaine et 10 sur les hauteurs. Le canton du Jura table donc sur un déficit de 5,3 millions de francs pour son budget 2025. Les prévisions ne tiennent pas compte d'un éventuel versement de la Banque nationale suisse et respectent le frein à l'endettement. Ce budget comprend par ailleurs des économies de l'ordre de 54 millions de francs. Les trois experts externes mandatés pour analyser la situation financière du canton estiment que des mesures supplémentaires d'austérité ne sont pas appropriées à court terme, mais ils préconisent une vaste réforme du fonctionnement de l'État. Pour parler de ce budget 2025, Jérémy Pignard, nous recevons la ministre des Finances.
Bonjour Rosalie Berestis.
Bonjour.
54 millions d'économies nécessaires pour parvenir à un déficit qu'on va qualifier de contenu, notamment parce que pour la première fois, l'État jurassien ne budgétise pas de très hypothétiques parts de la BNS. Les efforts ont été considérables pour tous les services.
Les efforts ont été considérables pour tous les services, pour le gouvernement également, qui a dû procéder à des arbitrages qui n'ont pas été faciles. Comme vous le mentionnez, vu les incertitudes sur les marchés financiers, le gouvernement a décidé de n'inscrire aucune part de la BNS dans ce budget 2025, ce qui a nécessité, en plus du plan équilibre qui continue à déployer ses effets pour quelque 37 millions, soit de recettes, soit d'économies, soit de baisse d'investissement sur le budget, de trouver encore quelque 17 millions supplémentaires afin de transmettre au Parlement un projet de budget qui soit conforme au mécanisme de frein à l'endettement.
Une situation toujours très tendue, mais pas de phase 2, entre guillemets, du plan équilibre à court terme. Ça veut dire aussi que malgré la tension financière, pas de hausse des impôts prévue ni en 2025, ni à moyen terme.
Le budget, comme vous le mentionnez, 2025, ne comprend aucune hausse d'impôts. Il comprend également des réalisations et d'initiatives populaires. Donc, notamment, il prend en compte l'initiative Les plaques moins chères pour la première fois dans sa globalité, ce qui devrait permettre de donner un petit peu d'air quand même au pouvoir d'achat des Jurassiennes et des Jurassiens. Et il permet aussi de corriger la progression à froid, qui est ce mécanisme au niveau des taxations fiscale qui permet de ne pas tenir compte de l'inflation. Il permet encore de soutenir différents projets de réalisation, notamment on parlait de Moutier, modernisation de l'État qui continue à déployer leurs effets, dans la politique de la jeunesse, enfin on va en citer quelques-uns, mais qui déploieront leurs effets dès 2025, tout en cherchant à concentrer certains moyens sur des domaines de charges à forte progression. Ce sont des domaines comme la santé, les assurances sociales qui connaissent des dynamiques majeures.
Pourtant, pour rester sur les impôts, vous avez relevé que la hausse des rentrées fiscales des personnes physiques, 2,5 millions, ne compense pas du tout la hausse des charges, plus 25 millions. Est-ce que ça ne veut pas dire que tôt ou tard, on ne pourra pas échapper à une hausse des impôts dans le Jura ?
Alors aujourd'hui, on le sait, la problématique de l'assiette fiscale, elle est connue depuis la création, je dirais, du canton, à savoir que notre assiette fiscale des personnes physiques qui devrait constituer le socle de nos revenus ne permet pas de compenser la hausse des charges annuellement. On a la chance de pouvoir bénéficier encore en 2025 au niveau des taxations d'une bonne conjoncture, vu qu'on taxe du 2023 des entreprises. Donc le budget est largement soutenu par l'impôt des personnes morales. Il est également soutenu par le gain immobilier, mais on le voit, l'équilibre est fragile et nécessite, budget après budget, de mener des réflexions, de mener des réformes, de se questionner sur les différentes prestations.
Et ça demande de vrais choix, et il y a un contexte particulier, celui des primes maladie qui ont explosé, on l'a entendu. Votre parti a déposé une motion pour les plafonner à 10% du revenu. Sans vouloir faire le débat avant le Parlement, est-ce que l'État, dans le contexte dans lequel il est, pourra se permettre ce genre de geste encore dans les années à venir?
Alors aujourd'hui, nous n'avons encore pas pu nous prononcer sur le projet de motion qui sera traité prochainement par le gouvernement jurassien, mais il est vrai que dans le contexte des finances cantonales que nous connaissons, les efforts que nous devons encore chiffrer par rapport à cette proposition de motion devraient nécessiter effectivement des adaptations majeures.
Il y a un groupe d'experts indépendants qui vous a accompagné pour élaborer ce budget 2025 et aussi donner des pistes pour l'avenir. Quel a été leur rapport, leur plus-value par rapport à ce que l'État avait déjà analysé de sa propre situation ?
Alors, comme vous le mentionnez, trois experts indépendants ont été mandatés pour accompagner le processus budgétaire. L'objectif était de pouvoir bénéficier d'un regard extérieur et nouveau sur la situation des finances cantonales. Donc, tout d'abord, un constat, ils ont relevé que le travail fourni dans le cadre du plan équilibre est un travail de qualité sur lequel le canton devait continuer à travailler et pouvait poursuivre une dynamique comme ça a été le cas pour l'élaboration du budget 2025. Toutefois, de leur lecture, le problème est plus structurel et nécessite donc des réformes davantage en profondeur, et c'est ce qu'ils ont présenté brièvement ce matin.
Alors justement, ils ont dit que réformer l'État, c'était bien, mais que ça n'allait pas assez vite, le périmètre n'était pas suffisant. Réforme du pilotage de l'État, réforme des structures communales, les réduire d'une cinquantaine à 7-8 communes. Est-ce que l'État souscrit à ces pistes et ça démarque en vue l'urgence ?
Alors, le gouvernement a pris connaissance du rapport, des conclusions du rapport des experts. Évidemment que celui-ci devra être encore analysé d'un point de vue beaucoup plus technique et plus fin de ce que ça représente dans la réalisation, parce que parfois il est nécessaire de faire des modifications de base légale. Mais je dirais que sur les principales orientations, le gouvernement souscrit aux conclusions du rapport des experts et transmettra au Parlement jurassien un message sur l'organisation de ce projet premier trimestre 2025. Il s'agira toutefois de pouvoir prendre aussi le temps de discuter avec les acteurs concernés, notamment les communes jurassiennes.
Merci beaucoup Rosalie Beressis, ministre des Finances, d'avoir été dans ce journal. Très bonne journée.
Je vous remercie, excellente journée.
Haute-Saône inaugure ses nouveaux appartements protégés. Le maître d'ouvrage Idri Lessa a présenté ce matin son complexe La Prairie à Basse-Cour. 24 logements sont d'ores et déjà terminés et peuvent accueillir des personnes âgées désireuses de conserver leur autonomie. La plupart sont d'ailleurs déjà loués. Un quatrième immeuble sera prêt en début d'année prochaine. Deux autres bâtiments devraient sortir de terre l'année prochaine également. L'un d'entre eux accueillera des cabinets médicaux et un centre ophtalmologique. Une belle plus-value selon le maire de Haute-Saône, Éric Dobler.
C'est un super projet qui s'intègre parfaitement dans notre programme de législature où on avait un volet sur la cohésion sociale et l'intégration. Donc ce type d'écoquartier est véritablement une des pierres à l'édifice de ce concept communal. Je pense que c'est véritablement un vivier pour l'avenir, pour générer des nouvelles énergies. Et pour nous, c'est véritablement une plus-value pour la commune. Ça nous permet, je dirais, de nous profiler comme, j'allais pas dire une commune modèle par rapport à ça, je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que c'est véritablement un élément de promotion pour la commune.
C'est une population qui est intéressante, les personnes âgées, pour une commune ?
Alors, c'est notre population. Elle n'a pas à être plus intéressante ou pas intéressante, c'est une population, c'est nos anciens, c'est les gens qui ont fait cette commune et puis pour lesquels il faut créer des conditions idéales pour pouvoir continuer d'habiter cette commune.
Des propos recueillis par Nancy Chapuis, des portes ouvertes sont organisées cet après-midi. Les citoyens suisses qui souffrent de troubles du sommeil sont toujours plus nombreux. Un tiers de la population est concernée selon une étude publiée ce matin par l'Office fédéral de la statistique. Et la proportion de personnes touchées a augmenté de 5% en 25 ans. Cette tendance constitue un problème majeur de santé publique selon les statisticiens, sachant que de tels troubles ont de graves conséquences sur la santé physique et psychique. Les détails de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
L'étude de l'OFS couvre la période 1997-2022 et désormais, 26% de la population est victime de troubles du sommeil qualifiés de moyens et 7% de troubles pathologiques. Un trouble moyen, c'est avoir du mal de s'endormir ou avoir le sommeil agité ou encore se réveiller trop tôt. Le stade pathologique, c'est le cumul de ces troubles. L'augmentation de l'insomnie affecte surtout les jeunes et les femmes ainsi que les personnes au bénéfice d'une formation supérieure. Mais en chiffres absolus, ce sont surtout les femmes les aînés et les personnes au niveau social de base qui sont les plus affectées. Les troubles du sommeil sont au centre d'un cercle vicieux. Ils sont souvent provoqués et aggravés par d'autres maladies, notamment musculo-squelettiques. Mais les réveils fréquents durant la nuit et le sommeil agité sont aussi la cause et les symptômes de maladies psychiques comme la dépression. Il faut donc s'inquiéter des troubles du sommeil. Ils ne provoquent pas qu'un manque d'énergie et de vitalité et réduisent la capacité de concentration. Les personnes qui pâtissent de troubles pathologiques du sommeil sont 41% à risquer le burn-out. Cette proportion tombe à 17% pour les personnes qui dorment bien.
La Suisse doit pouvoir compter sur un approvisionnement médical sûr. Un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes a déposé aujourd'hui à la chancellerie fédérale plus de 130 000 signatures pour l'initiative populaire « Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical ». Le texte exige de prendre des mesures contre la pénurie de médicaments importants et de matériel médical. Il faut déconstruire l'image que nous nous faisons des personnes en situation d'addiction. Le groupement Romand d'études des addictions a récemment partagé quelques bonnes pratiques à adopter pour éviter de renforcer les préjugés autour de ces personnes. Il a ainsi conçu un guide destiné aux journalistes pour éviter de répéter certaines erreurs. Benjamin Ravinet, le responsable d'une équipe mobile mise en place par l'association Itinéraire, est formel. Il faut faire attention à notre langage.
Dès l'instant où on va parler de consommation problématique, du coup, on va être dans une lecture un peu anticipée et puis on pourra intervenir plus précocement et on évitera ainsi l'isolement du coup. Parce qu'effectivement, le chemin de prise de conscience entre la perte de maîtrise et la conscience qu'on est confronté à une addiction, ça prend du temps et c'est fait de parfois de très lourdes pertes. Donc du coup, le fait d'en parler collectivement comme quelque chose qu'on peut aborder tranquillement quand on commence à en perdre la maîtrise et qu'on voit que ça commence à devenir un petit peu problématique. Si on peut en parler facilement, on n'a pas l'impression effectivement d'être stigmatisé, d'être isolé, on facilite grandement l'accès aux soins.
À l'étranger, Israël a poursuivi cette nuit son offensive au Liban avec 17 raids aériens sur Beyrouth et sa banlieue sud, selon l'agence officielle libanaise. L'un d'eux a frappé un centre de secours du Hezbollah et a fait au moins 7 morts. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé ce matin avoir éliminé 3 hauts dirigeants du Hamas dans une frappe il y a environ 3 mois dans la bande de Gaza.
Vous écoutez RFJ, les 12h27.
Sport. Un demi-siècle a flirté avec les nuages du ciel de l'arc jurassien. Le club de vol libre Jura fête ses 50 ans. Ce jubilé sera marqué d'une pierre blanche samedi à Kourou. Fondée en 1974 par des passionnés de Delta, la société a vu l'émergence du parapente dans les années 80 pour compter aujourd'hui 279 membres, alors que la discipline a aussi été boostée par une certaine envie de retour à la nature lors des années Covid. Le président du VLJ explique quels sont les ingrédients qui ont permis à son club de perdurer, Lionel Socky.
Je pense qu'il y a déjà l'évolution du matériel et des pratiques, où il y a toujours un peu de la nouveauté. Il y a cette camaraderie qui a été développée aussi au sein de ce club. C'est un club où on peut rencontrer des gens de 16-17 ans qui commencent la pratique, jusqu'à des gens qui ont entre 75 et 80 ans, qui pratiquent encore l'activité. Donc il y a un mélange entre ces différentes générations, un échange d'expériences et puis une belle émulation entre ces différentes personnes qui ont finalement une passion commune.
La topographie de la région, ça favorise aussi la pratique du vol libre?
Alors oui, tout à fait. On a actuellement dans la région, donc le club de vol libre Jura gère environ 22 sites. Et puis sur ces 22 sites, ils sont facilement accessibles selon les conditions météo. Donc contrairement à certaines régions, on n'a pas besoin de faire une heure de voiture pour aller voler. Typiquement, ça nous arrive souvent après une journée de travail de prendre ses affaires et puis de monter sur un site pour un peu se changer les idées.
Le club de vol libre Jura a édité une édition spéciale de son journal La Plume à l'occasion de son 50e anniversaire. Ce jubilé sera célébré samedi à Kourou avec différentes animations et une soirée festive. L'objectif est aussi de faire découvrir cette discipline au grand public, selon la présidente du comité d'organisation, Virginie Aubry.
On va proposer de la pente-école, ce qui permet de se mettre sous un parapente, de se mettre sous un delta, d'avoir les sensations, de courir en bas la pente, d'avoir le parapente qui se gonfle au-dessus de la tête et puis de sentir ce que c'est que de voler parfois sur 1 ou 2 mètres quand on arrive en bas de la pente. On aura aussi un treuil qui est un dispositif qui nous permet de décoller en fait depuis la plaine. Parce qu'il faut savoir que normalement, on doit avoir une différence de dénivelé entre le décollage et l'atterrissage. Là, on peut décoller en plaine, on gagne quelques 200 mètres d'altitude, ce qui nous permet de faire des petits vols, de rester sur place, d'avoir du plaisir. Et ça nous permettra aussi de pouvoir proposer des biplaces pour ceux qui auraient envie de s'essayer au parapente et puis de découvrir ces magnifiques sensations.
L'objectif, c'est éventuellement de susciter de nouvelles passions.
Mais tout à fait, encourager les gens à commencer le parapente éventuellement, mais déjà juste à voir le Jura depuis le ciel, à découvrir ces paysages qui sont tout différents quand on est là-haut.
Un sujet d'Émilie Mumenthaler, retrouvez le programme des animations mises sur pied pour les 50 ans du club de vol libre Jura en lien sur rfj.ch. En football, les portes de l'équipe de Suisse restent plus que jamais ouvertes. C'est le message de Mourad Yakin avant les deux rencontres des 12 et 15 octobre contre la Serbie et le Danemark en Ligue des Nations. Le sélectionneur a intégré un néophyte dans sa liste des 24 joueurs. Il s'agit du demi-offensif du FC Saint-Gall, Christian Witzig. 6 retours sont enregistrés, dont ceux de Dan Endoy, Edmilson Fernandez et Ulysse Garcia. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous souhaite un bel après-midi.